franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les vœux présidentiels. Tout au long de janvier, Nicolas Sarkozy décentralise la présentation de ses vœux de l'Envéole Poulmique à Cayenne, en passant par l'Ariège et le Haut-Rhin, et il conserve en outre une demi-douzaine de cérémonies à l'Élysée, par exemple pour les magistrats et pour les autorités religieuses.
Monsieur le cardinal, monsieur le métropolite, monsieur le grand rabbin, monsieur le président du consistoire israélite de France, monsieur le pasteur, monsieur le président du culte musulman, monsieur le recteur de la mosquée de Paris, monsieur le président de l'Union bouddhiste de France, et si vous me le permettez, mes chers amis.
Le rituel des vœux se segmente donc en même temps qu'il s'allonge et se complexifie. En revanche, la cérémonie télévisée du 31 décembre reste intangible comme congelée. Les candidats à la présidence peuvent présenter leurs vœux sur le net avec une certaine fantaisie, mais le chef de l'État, lui, continue de parler seul depuis son palais. Dans 10 ans, peut-être n'y aura-t-il plus de téléspectateurs pour participer, du moins en direct, au rituel, mais il se perpétuera tout de même. Les liturgies qui tolèrent difficilement les réformes refusent absolument l'interruption. En revanche, elles ne détestent pas être observées d'un œil curieux. Les vœux télévisés depuis 1958 ont déjà fait l'objet de 2 thèses, d'une pièce de théâtre, de livres nombreux et maintenant d'une anthologie que présente aux éditions de la Documentation française Xavier Patier. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous présentez aux éditions de la Documentation française parce qu'il faut dire que vous êtes le directeur des journaux officiels, le directeur de la Documentation française avec un superbe titre que je vous laisse dire.
Ah, directeur de la formation légale et administrative.
Oh là là, mais vous êtes aussi, Xavier Patier, un excellent écrivain, auteur de quelques 25 livres, autant de livres au fond que Nicolas Sarkozy fera de discours de vœux.
Je ne crois pas qu'il y en ait 25.
Des mois de janvier au presque, il y a la carte dans le Parisien libéré de ce matin. Alors l'info légale et administrative, l'information officielle, devrais-je dire, elle passe dans les vœux d'abord par la radio dès les années 30 et plus encore dans les années 40.
Oui, à l'origine, les vœux, c'est une voix avant d'être un visage. Les vœux les plus marquants, c'est les vœux de la période de la guerre, et en particulier les vœux du général de Gaulle à la BBC, versus les vœux du maréchal Pétain sur Radio Paris.
Mais c'est à Noël, c'est pas au
C'était le 24 décembre, oui. La date a un peu flotté dans les années 50, mais à l'origine, les vœux, c'était les vœux de Noël. Oui. C'était pas les vœux pour l'année civile.
Alors, vous comparez les vœux de Noël de Pétain 41, les vœux de Noël de Gaulle 41.
Ah oui, c'est 2 textes qu'il faut lire parce que c'est 2 univers absolument à des milliers d'années-lumière. Général de Gaulle, il parle d'espérance, il parle de la France, il parle de stratégie, il annonce déjà la victoire. Il s'adresse aux enfants, aux générations futures. Et le maréchal Pétain s'adresse aux prisonniers, il parle de la terre, il regarde vers le sol, il dit il faut être gentil avec l'occupant. Ouais. C'est deux manières de s'exprimer complètement différentes. Et en même temps, un point commun, c'est le souci de la belle langue. C'est-à-dire qu'on sent bien de part et d'autre l'impression qu'il faut dire les choses vraiment complètement et les dire de manière belle. Ça, c'est l'idée constante.
Le général de Gaulle est déjà retourné à la retraite et les présidents de la 4e République présentent leurs vœux à une date, elle, encore flottante. Par exemple, ici, Vincent Auriol, qui fait l'expérimentation, passe de la radio à la télé, de la télévision. Ce sont ses vœux du 6 janvier 1949, enfin, il y a très peu de téléspectateurs, encore moins que pour regarder les vœux d'Hervé Morin ou d'Eva Joly sur le net aujourd'hui.
Au seuil de 1949, le président de la République s'adresse aux Français.
Je souhaite que le spectacle de nos ruines toujours présentes et de tant de foyers encore sans abri écarte les égoïsmes aveugles trop nombreux, exalte le travail dans un fraternel souci de justice sociale. Je souhaite que nous saisissions la chance magnifique qui nous est offerte par l'aide généreuse des États-Unis pour nous transformer, moderniser notre équipement, produire chaque jour davantage et créer cette communauté prospère qui doit être capable, dans 2 ans, de se suffire à elle-même et de retrouver bien-être et joie.
L'époque du plan Marshall, c'était sous la 4e République, aussi bien le président du Conseil que le président de la République qui s'exprimait d'ailleurs.
Oui, les deux. D'ailleurs, les premiers vœux du général de Gaulle, en décembre 58, étaient prononcés depuis Matignon, parce que le général de Gaulle avait été élu président de la République, mais pas encore investi. Les premiers vœux du général de Gaulle étaient des vœux de président du Conseil.
Et René Coty, cette année-là, qui était encore président de la République, c'était la construction de la fonction présidentielle sacralisée de la 5e République va de pair avec la multiplication des téléviseurs.
Ah ben oui, c'est-à-dire que il y a une espèce de triptyque. La 5e République, c'est le président de la République, la télévision et la déesse noire, on va dire. C'est-à-dire que le général de Gaulle, il a effectivement coïncidé avec l'arrivée de la télévision. Il y avait 500 000 téléviseurs en France en 1958. Et il y en avait, alors je ne saurais pas dire, mais pratiquement autant que de foyers 10 ans plus tard. Autrement dit, ça a été un phénomène absolument massif. Et le général de Gaulle a très vite compris que c'était un moment et un support à la télévision qui permettait d'être vraiment président de la République, c'est-à-dire de parler à tout le monde sans médiation.
Alors, le palais de l'Élysée est dans l'obscurité, les fenêtres sont allumées, un carton, le général de Gaulle, président de la République, vous parle, la Marseillaise, c'est pour la fin, pas comme aujourd'hui. Les plans sont de plus en plus resserrés sur la longue figure du vieil homme qui apparaît en costume foncé.
Le progrès est aujourd'hui notre ambition nationale. Jamais nous n'avions ni produit ni gagné autant. Par rapport à 1958, l'année 1964 a vu notre revenu national s'accroître de 35%. Cela veut dire en somme qu'un bébé qui vient au monde ce soir pourra, à partir de sa majorité, vivre 2 fois mieux que ses parents ne vivent aujourd'hui. Alors, j'offre à la France, cette fois encore, les vœux très ardents et très confiants de ses enfants. Vive la République, vive la France.
Et tout ça, grand renfort de gestes. Si le dernier plan n'était pas aussi resserré, on verrait les jambes bouger sous le bureau.
Oui, en même temps, c'est du noir et blanc. Donc, le texte est quand même... C'est une période où il y a vraiment la prééminence du texte. Le général de Gaulle est un extraordinaire écrivain et diseur de ses propres phrases. Ce qu'il faut retenir de ses voeux, c'est la volonté d'exprimer l'expérience d'un homme. Et d'ailleurs, au fil du temps, c'est de plus en plus ça. Dans les années 65, 66, 67, 68, il fait allusion, sinon à son âge, du moins à son expérience. À un moment, il dit « la vie est la vie », c'est-à-dire un combat pour une nation comme pour un homme. Il le dit avec un ton tel qu'on se dit, effectivement, il sait de quoi il parle, quand il parle de la vie.
Tout à l'heure, vous distinguiez le style de Pétain en 41, le nez vers la terre, et le style de De Gaulle, le nez vers les étoiles. Mais en fait, les chiffres, les comptabilités économiques sont extrêmement présents dans les vœux de De Gaulle.
Il a toujours parlé d'économie dans ses vœux, notamment les premiers, parce que c'était le franc lourd, ça a été la réforme budgétaire, en des termes extrêmement intelligibles, c'est-à-dire qu'il dit en 58, au lieu de dire qu'il y a, une dette et des échéances difficiles, il dit... On a dépensé plus d'argent que les impôts n'ont rapporté, ça ne peut pas durer. Voilà. Il y a des choses de manière très simple. Il explique comment est-ce qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire. Et ensuite, il parle effectivement beaucoup de la croissance, qui est brillante à cette époque.
Il lui arrive de ne pas souhaiter ses voeux aux Français, mais de dire « vous et moi offrons nos voeux à la France ».
Oui. Ah ben, la France est une personne. Ouais. Il a lu Jules Michelet, si vous voulez. Ouais.
Et jamais tant d'hommes n'ont tant attendu de la France. Parmi les tout derniers voeux, ceux bien connus, du 31 décembre 1967, avant la crise de mai.
Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Les vers de Verlaine
mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille, peuvent évoquer une paisible demeure, non pas un grand peuple en marche.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Xavier Patier qui publie à la documentation française « Bonne année la France », une anthologie des vœux présidentiels de la Ve République après mai 68, après le référendum négatif un an après avril 69. C'est Georges Pompidou qui succède au général, ce qui n'est pas facile. Il lui faut trouver son style.
Vœux de Monsieur le Président de la République, première.
Mon gouvernement saura maintenir la dignité de la France pour améliorer les retraites, pour aider les familles, pour... Oh, il faut couper.
Vœux de Monsieur le Président de la République, deuxième.
Il prendra, je vous le promets, les mesures indispensables pour développer le bien-être.
Mais non, je me suis encore trompé. Demande pardon. Il faut que je relise mon texte. Vous me prêtez mes lunettes.
Vœux de Monsieur le Président de la République, troisième.
Du fond du cœur, je souhaite que l'année 1972... vous soyez clémente. Bonne année, mes amis. Bonne année. Et vive la France.
Ouf. Voilà, il a dit ouf, oui, parce que ça ne suppose pas l'improvisation, les vœux présidentiels, même quand on veut faire comme lui, dans un autre style que le style du général, plus de proximité, plus de simplicité.
Ah ben, Georges Pompidou, c'est un autre. D'abord, c'est une autre génération. Ensuite, c'est un professeur, c'est un professeur de lettres. Et c'est un Auvergnat. Donc on est assez loin du nord de la civilisation du café, c'est plutôt la civilisation du vin, Pompidou, et de la France méridionale. Et en même temps, ses premiers vœux, on sent d'ailleurs qu'il a tiré la langue dessus, il très vite, il parle au général de Gaulle pour essayer de rétablir un lien. Il dit, il y a juste 25 ans, dans le froid glacé de la libération, j'étais avec le général de Gaulle. Il le dit très clairement parce qu'il veut répondre aux archéogaullistes ou aux paléogaullistes grognons qui
il faut
conteste.
Faire remarquer qu'il n'était pas là dans l'hiver de la résistance.
Exactement, mais il était là en 44. Voilà. Donc, il essaye quand même de se mettre dans les pas du général, sans prétendre évidemment être son continuateur. C'est différent.
C'est deux fois moins de mots.
Il est très court. Il économise le temps de son auditoire, probablement parce que précisément c'est un pédagogue et il doit savoir que il ne faut pas dire trop de choses. Il renonce à l'ambition qui était un peu celle du général de Gaulle et qui a été celle d'ailleurs des présidents suivants de vouloir tout dire. Pompidou ne cherche pas à tout dire. Il dit une ou deux choses. Il souhaite une bonne année et il arrête. Ça dure très peu de temps.
C'est donc loin de l'éloquence parlementaire, du discours républicain. Et vous dites d'ailleurs que la cérémonie des vœux impose de revenir, même à l'époque apparemment simplificatrice de Georges Pompidou, au vocabulaire court des Capétiens.
Oui, parce que c'est les vœux présidentiels, c'est la grande phrase, c'est-à-dire l'inverse de la petite phrase. La télévision et la radio d'ailleurs, et les médias et les journalistes ont suscité ce qu'on appelle la petite phrase, c'est-à-dire le bon mot. On ne peut pas se permettre ça quand on est président de la République et qu'on fait ses vœux. On cherche plutôt la grande phrase qu'on va retenir en forme de slogan. Tout est perdu, fort l'honneur, par exemple. Ça, c'était avant la télévision, c'était François Ier, mais on a toujours cela. Rien ne se gagne que dans l'effort. Ça, c'est les premiers vœux de Pompidou. On voit que cette phrase était celle qu'il a voulu qu'on retienne.
Mais le Capétien est en même temps un homme comme les autres qui ouvre le bouton de son poste de radio. J'ouvre mon journal comme vous et je vois que...
Ah ben Pompidou, c'est un homme qui vient du peuple et qui fonde son identité sur cette appartenance qu'il a avec le peuple français, qui est une notion qu'on a quand même perdue de vue, mais le mot « peuple » était beaucoup employé par Pompidou. Il en était.
Visage de professeur sévère. Il ne sourit pas beaucoup dans ses vœux télévisés. D'autant plus sévère qu'il a deux énormes sourcils en forme de boomerang.
Je crois que c'est Mauriac qui disait qu'il portait sur le front les moustaches de Staline.
Et le costume gris anthracite, Georges Pompidou.
L'hiver est là. Et il fait froid. Le calendrier rappelle à chacun de nous le temps qui passe. Et pourtant, les hommes, depuis toujours, ont voulu faire de ce moment une fête. Ils oublient la présence de l'hiver pour ne pressentir que le prochain printemps.
C'est une année du reconnu des arbres et des fleurs. une année où des êtres se seront rencontrés, une année où certains auront commencé à apprendre, à produire, à imaginer, à inventer. Une année qui fait partie de notre vie et une année que nous ne reverrons plus.
Avant même, Xavier Patier, que vous ne publiez votre anthologie « Bonne année la France » à la Documentation française, Patrick Rothman, dans son émission « Les brûlures de l'histoire » en 1995, avait lui construit un florilège des vœux présidentiels. Est-ce qu'on peut s'arrêter longuement à Valéry Giscard d'Estaing? Parce que c'est une tentative, dans la répétition qu'est la cérémonie des vœux, de transformation de la liturgie.
Oui, alors voilà, il y a eu la nouvelle liturgie.
Ça coïncide avec l'aménagement très profond de la liturgie après Vatican II, chez les catholiques.
Le concile Vatican II date plutôt du général de Gaulle.
Oui, c'est 62.
Donc c'est arrivé avec du retard.
Oui, mais ça a provoqué des débats pendant des décennies.
Oui, mais il n'y a pas eu de concile préalable au changement de liturgie des vœux par Giscard. C'était une décision apparemment solitaire et qui a été réversible, ce qui n'est pas le cas de la réforme liturgique, sauf erreur de ma part. Valéry Giscard d'Estaing arrive et dans tous les registres, il revendique de faire les choses autrement. C'est quasiment obsessionnel. Il revendique le fait qu'il est jeune, et il veut s'habiller différemment, il change les codes vestimentaires.
Parce que jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, la prise de fonction du président de la République se faisait en habit ou en jaquette.
Oui, exactement. Et alors là, Giscard d'Estaing, c'est le complet veston. Il a d'ailleurs lancé une espèce de mode autour de cette expression. Sa photo officielle est en format italien, paysager, ce qui change la photo de l'article par rapport à la tradition qui remontait à la Troisième République et à Émile Loubet. Et les vœux, et là aussi, il a vraiment envie de montrer qu'il est différent. Il veut faire à la mode, avec le risque d'ailleurs de se démoder. Donc il se décale, il se présente comme un Français comme les autres, un peu plus luxueux peut-être que la moyenne, mais le sait-il, avec une cheminée en marbre. Il met sa femme à contribution, d'ailleurs, à l'occasion.
Et alors, sur la cheminée, il y a la pendule de l'oncle Agénor.
Ouais, voilà. Oui, non, c'est véritablement... D'ailleurs, il dit, c'est pas le président, c'est un Français qui s'adresse à d'autres Français, à tel point, d'ailleurs, qu'on se demande à quel titre il est là, parce que c'est précisément parce qu'il était président qu'il avait le droit de nous donner des vœux. Et on dirait qu'il ne veut pas... il ne veut pas complètement assumer le fait qu'il est président de la République. Sans doute... Il y a une part de meurtre du père vis-à-vis de Gérald de Gaulle, qui lui-même était président intrinsèquement. Giscard d'Estaing serait plus du genre à dire « je fais le métier de président aux heures ouvrables ». Et là, au moment des vœux, je ne suis pas à une heure ouvrable, donc je vous parle
c'est un portrait
comme votre voisin.
À charge, mais à sa décharge, il faut dire qu'on se souvient de presque tous les vœux du président Giscard.
Adieu donc, 1974, et salut à toi, 1975. Je voudrais que mes vœux soient vraiment des vœux. Les vœux de la France pour les Français et les vœux des Français pour la France. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses vœux.
À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte, à vous et à ceux que vous aimez, bonheur, santé et succès. Et j'ajouterai un souhait. Que ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir le bonheur et la santé n'oublient pas ceux qui sont moins favorisés. Que pour eux aussi, 1976 soit une année meilleure.
Bonne année à tous.
Bonne année à tous.
Alors, plus de Marseillaise, une musique guillerette. Évidemment, Anémone Giscard d'Estaing est aussi à l'aise que si elle inaugurait la foire au boudin à Mortagne aux Perches. Il y a l'image qu'on veut donner et puis il y a l'image involontaire.
Ah ben, on est dans l'acte manqué absolu. C'est-à-dire que voulant être proche, le président se fait condescendant et la mise à contribution de son épouse ne fait qu'aggraver la situation. Alors bon, c'est facile d'ironiser en plus. Et tout cela sent bien son époque, ça fleure bien, c'est les années 70, hein. même les tons de voix sont révélateurs de l'époque. Il y a quand même un côté qui est très, très intemporel, c'est quand même le châtelain qui est responsable de ses paysans, mais dans la manière de le dire aussi.
Valéry Giscard d'Estaing imagine que la France se constitue autour d'une couche moyenne très épaisse de Français sur trois, mais on entendait son épouse, on entend lui aussi très souvent dans ses vœux, détailler catégorie par catégorie les déshérités, ceux qui souffrent. On l'entend parler des prisonniers, par exemple. Il ne parle plus de la France comme d'un pays complètement uni.
Oui, là, c'est le défendisme. Mais ça, c'est général. C'est-à-dire qu'on commence à segmenter le marché des Français dans le discours politique dans les années 70. Le général de Gaulle parlait... il lui arrivait de parler des militaires ou des agriculteurs, mais il parlait de la nation. Là, on arrive à un moment où on a une espèce de litanie. Vous parliez de liturgie. Donc, c'est les différentes catégories socioprofessionnelles, à commencer par les plus vulnérables, qui sont citées avec la peur d'en oublier. Donc, la liste s'allonge au fil du temps.
Protège-nous de la crise, dit-on aussi dans la liturgie. Enfin, protège-nous du mal. La présidence de la Valéry Giscard d'Estaing est prise, en effet, dans l'étau des difficultés économiques. Et il lui faut revenir à davantage de retenue. La fantaisie n'est plus de mise.
Jusqu'à ces dernières années, le chômage épargnait les pays les plus riches. Depuis 4 ans, tous sont touchés. À quelques signes, on reconnaît que cette crise commence à refluer lentement comme une inondation qui se retire. La crise, elle nous menace en effet. Nous allons subir un nouveau choc du fait de l'augmentation des prix du pétrole confirmée récemment à Caracas. La facture à payer pour la France et pour les Français sera plus lourde qu'en 1973-1974. Cela ne sert à rien de le dissimuler ou de le nier. L'année 1981 sera encore une année difficile.
Le président Giscard d'Estaing est remplacé par François Mitterrand, qui revient définitivement, semble-t-il, aux formes les plus classiques. C'est le retour à l'incarnation de la fonction dans la difficulté.
Oui, François Mitterrand...
Vous n'avez pas l'air convaincu dans le style de François Mitterrand.
Je trouve que dans le domaine des vœux, comme dans tous les autres domaines, il trotte quelques... très loin en dessous du général de Gaulle, qui l'a manifestement obsédé. Et le discours de François Mitterrand au moment des vœux ressemble vraiment à la copie du bon élève de jésuite qu'il a été 50 ans plus tôt, ou 60 ans plus tôt. Donc c'est bien écrit, c'est sans reproche. Un peu trop d'adjectifs, sans doute. Mais c'est surtout extraordinairement stéréotypé.
Bah, c'est pas mal, hein, ce qu'on prend une narration.
Ah, aujourd'hui, c'est très au-dessus de la moyenne de ce qu'on entend. Mais pour l'époque, c'était relativement classique.
Le récepteur, comment reçoit-il ? Je citais une pièce assez drôle de Jean-Louis Benoît qui a été donnée au théâtre de l'Aquarium. C'était en 1990 et Benoît racontait comment les fourniers recevaient les vœux de François Mitterrand en 81-82. Ils étaient enthousiastes. Et puis alors en 1990, le président, avec son chapeau, son écharpe rouge, frappait à la porte. Il neigeait ou il pleuvait, il voulait entrer. Et les fourniers ne l'écoutaient même pas taper, toquer. C'est-à-dire que la réception est de plus en plus difficile aussi, la réception du haut vers le bas, comme ça.
Oui, là, le problème des vœux des présidents, c'est que première fois que les vœux sont prononcés, première année, le président a vraiment envie de tout dire. Il vient d'être élu, il a beaucoup de choses à dire. Et le souci dans les années qui suivent, c'est de ne pas se répéter, de ne pas devenir lassant. Et souvent, d'ailleurs, un espèce de phénomène de dramatisation. C'est-à-dire que pour se renouveler, le président dit les choses vont très mal. Elles vont d'autant plus mal que les élections approchent. C'est d'ailleurs souvent vrai. Mais il est exact que les vœux, il y a une espèce de loi qui fait qu'au fil des années, les vœux des présidents, du même président, deviennent un peu plus austère, un peu plus ennuyeux.
Tout de même, un dernier sursaut, le 31 décembre 1994, Serge Moati, son réalisateur, est allé quérir dans son lit, dans les appartements privés de l'Élysée, François Mitterrand, qui, très affaibli, est descendu vers le studio et s'est peu à peu redressé. Et le dernier cru fut excellent.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République, vive la France.
Thank you. fonction magique du président, retour à l'idée spirituelle de la France. Il y a les terreux et les spirituels, une grande distinction dans la rédaction des vœux, dites-vous.
Oui, je ne suis pas sûr que Mitterrand soit dans les spirituels. Il est plus près de la terre qu'il ne ment pas, surtout au début. Alors là, effectivement, il fait son dernier tour de passe-passe. On dirait presque qu'il fait tourner une table. Il annonce qu'il croit aux forces de l'esprit. Un peu comme quelque temps plus tard, il fait jouer le requiem de Duruflet à ses obsèques, en disant qu'une messe est possible. Finalement, jusqu'au bout, on se demandera si c'était du lard ou du cochon. C'est-à-dire, est-ce qu'il se moque de nous? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est un tartuffe ou est-ce que c'est un génie? La question reste ouverte, en tout cas pour certains. Ce qui est sûr, c'est que il y a chez François Mitterrand la volonté de manipuler quand même l'auditoire. Quelquefois avec succès, ça a été le cas. Ses derniers vœux ont été salués par tous les mitrandolâtres comme un sommet de la littérature universelle.
C'est François Mitterrand qui, en 88, a introduit le drapeau européen derrière le président, à côté du drapeau français.
Oui, c'est une tradition américaine. François Mitterrand était atlantiste. Hein. Il l'a été pendant la 4e République, il l'a été aussi jusqu'à ce qu'il soit élu. Et donc, il est assez logique qu'il ait cédé à cette mode américaine.
Et désormais, il faut nécessairement parler de l'Europe. Ne séparez jamais la grandeur de la France de la construction de l'Europe. C'est notre nouvelle dimension, disait le 31 décembre 1994 François Mitterrand. Et on va terminer, vous êtes natif de Brive-la-Gaillarde, par le président corrézien Jacques Chirac, qui tout le temps parlait d'Europe.
Notre pays joue un rôle important dans le monde. Nous venons de le prouver dans l'ex-Yougoslavie en prenant des initiatives fortes pour rétablir la paix dans cette partie du continent européen, l'Europe. Elle nous est plus que jamais nécessaire. Et la France veut y prendre toute sa place. Mais je veillerai à ce que l'Union européenne soit plus attentive à vos préoccupations quotidiennes. Nous avons choisi ensemble de faire grandir la France dans l'Europe, une Europe qui nous garantit la paix, une Europe qui nous permet de peser davantage dans le monde. Nous avons choisi aussi de prendre part à la mondialisation, mais une mondialisation maîtrisée, organisée, respectueuse de l'environnement, capable de prendre en compte les aspirations des hommes et capable de faire reculer la pauvreté. Ce sera tout le sens du combat de la France dans les grandes négociations à venir.
L'addiction est déjà celle de Pompidou. C'est d'ailleurs pas une surprise, puisque c'est finalement une filiation directe. Le sujet, l'Europe, parce que c'est le grand sujet du moment, c'est le grand enjeu le grand enjeu de la politique à ce moment-là pour la France allait rester. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, à la différence de Georges Pompidou, Jacques Chirac avait plus de mal à faire court. Il avait tendance à aller très loin dans le détail de ce qu'il disait.
Merci d'avoir tenu le temps d'antenne, Xavier Patier. Tous acteurs d'un même spectacle, célébrant d'une même liturgie, les présidents et leurs vœux. Bonne année la France, c'est à la Documentation française. L'émission était réalisée par Marie Casanova avec Franck Olivard, Frédéric Martin, Isor Pisani-Ferry, à la technique Cédric Lalanne et Grégory Vallon. Demain, nous parlerons de Spartacus. Nous serons 72-71 avant Jésus-Christ.